l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 6, les opprimés domestiques. Quatrième partie. Après qu'Amelia Bloomer, directrice de la poste dans un petit village de l'État de New York, eut contribué à développer le port de la culotte bouffante, les féministes militantes l'adoptèrent en remplacement de l'antique corset à baleine et des gaines et jupons en tout genre. Elisabeth Cady Stanton, une des leaders féministes de l'époque, raconte comment elle vit pour la première fois une de ses cousines porter une jupe culotte. Voir ma cousine avec une lampe dans une main et un bébé dans l'autre, monter les escaliers avec grâce et aisance, alors que dans mon encombrante robe je me hissais avec difficulté, sans parler de porter une lampe et un bébé, m'a rapidement convaincue qu'il y avait un besoin pressant de réformer le costume féminin. Je commandais aussitôt un vêtement identique. Après s'être investie dans divers mouvements réformistes, ligues de tempérance, anti-esclavagistes, habitudes vestimentaires et conditions carcérales, les femmes se tournèrent avec audace et expérience sur leurs propres conditions. Angelina Grimke, une blanche du Sud, qui devint une redoutable oratrice et organisatrice de la lutte contre l'esclavage, pensait que ce mouvement devait aller plus loin. Exigeons d'abord de la nation qu'elle sorte des millions d'esclaves des deux sexes de la fange et reconnaisse en eux des êtres humains. Ensuite, il sera plus facile de relever de terre des millions de femmes afin qu'elles se tiennent debout. En d'autres termes, afin de faire qu'elles passent de l'état de nourrisson à celui de femme. Pour cela, il allait falloir surmonter un grand nombre d'obstacles. Dans les années 1830, une circulaire pastorale, rédigée par l'Association générale des ministres du culte du Massachusetts, ordonnait aux officiants d'interdire à la femme de s'exprimer en chair. Lorsqu'elle prend la place et le ton d'un homme, nous nous mettons nous-mêmes en position de défense vis-à-vis d'elle. Sarah Grimke, la sœur d'Angelina, écrivit en réponse à cette circulaire une série d'articles réunis sous le titre de « Lettres sur la condition féminine et sur l'égalité entre les sexes ». Pendant la première partie de ma vie, écrit-elle, j'ai évolué dans le monde papillonnant de la société mondaine. Les femmes dans ce milieu, je suis obligée de le dire, à la fois par observation et par expérience, ont reçu une éducation tristement déficiente. On leur apprend à considérer le mariage comme la seule chose indispensable, la voie unique vers l'excellence. Si l'écriture de Sarah était puissante, Angelina était une oratrice inspirée. Il lui arriva de discourir 6 nuits de suite à la Boston Opera House. À un compagnon abolitionniste bien intentionné, qui lui conseillait de ne pas trop mettre en avant le sujet de l'égalité sexuelle, tant il exaspérait les esprits et ne pouvait que faire du tort à la campagne en faveur de l'abolition de l'esclavage, Angelina répondit « Nous ne pouvons soutenir l'abolition de toute notre volonté, que si nous écartons les obstacles qui se dressent sur notre route. Si nous abandonnons le droit de parler cette année, il nous faudra faire de même pour le droit de pétitionner l'an prochain et pour le droit d'écrire l'année suivante. Que pourra faire la femme, dès lors, pour apporter son secours aux esclaves si elle se trouve elle-même à genoux et réduite au silence par l'homme ? Angelina fut la première femme à s'exprimer en 1838 devant un comité de la législature de Massachusetts pour défendre les pétitions sur l'abolition. But not the way I feel inside. Son discours attira une foule nombreuse et un représentant de Salem proposa qu'un comité soit constitué pour examiner les fondations du bâtiment accueillant le Parlement du Massachusetts afin de déterminer s'il pourrait supporter un autre discours de Mademoiselle Grimke. Les femmes se sont énormément investies dans les ligues anti-esclavagistes partout à travers le pays, réunissant des milliers de pétitions adressées au Congrès. Dans A Century of Struggle, Eleanor Flexner écrit « Aujourd'hui, d'innombrables documents des archives nationales de Washington apportent le témoignage de ce travail harassant et anonyme. Les pétitions sont jaunies par le temps et tombent en poussière. Collées les unes aux autres, page à page, couvertes de taches d'encre, elles présentent des signatures irrégulières et parfois raturées par ceux qui pensaient craintivement qu'il valait mieux ne pas faire ce geste audacieux. Elles portent également le sigle des sociétés féminines anti-esclavagistes qui s'étendaient de la Nouvelle-Angleterre à l'Ohio. Au cours de ce chapitre, on a souvent présenté le mouvement des femmes en faveur de leur propre droit à l'égalité comme allant de pair avec le mouvement anti-esclavagiste. En 1840, une convention mondiale contre l'esclavage se réunit à Londres. Après un débat houleux, il fut décidé d'en exclure les femmes, qui furent néanmoins autorisées à assister aux réunions, dissimulées derrière un rideau. Les femmes investirent donc silencieusement la galerie en signe de protestation, et William Lloyd Garrison, un abolitionniste qui combattait également pour les droits des femmes, vint prendre place à leur côté. C'est à cette époque qu'Elizabeth Cady Stanton rencontra, entre autres, Lucretia Mott et commença à jeter les bases de la première convention pour les droits de la femme. Cela se déroulait à Seneca Falls, État de New York, où vivait Elizabeth Cady Stanton, mère de famille et maîtresse de maison révoltée contre sa condition. Elle déclarait « Une femme n'est rien, une épouse est tout ». Elle écrivit également plus tard « Je comprends aujourd'hui parfaitement les difficultés pratiques auxquelles les femmes sont confrontées dans l'isolement de leur foyer et leur incapacité à s'épanouir pleinement quand, pour tout contact, elles n'ont tout au long de leur vie que la domesticité et les enfants. Le mécontentement général que je ressentais en songeant au rôle des femmes en tant qu'épouse, mère, maîtresse de maison, gouvernante et guide spirituelle, le chaos dans lequel tout sombre si elles n'y prêtent pas attention et l'aspect inquiet et las de la majorité des femmes m'emplissait du vif sentiment qu'il fallait prendre des mesures effectives pour remédier aux maux de la société en général et à ceux des femmes en particulier. Mon expérience lors de la Convention mondiale contre l'esclavage, tout ce que j'avais lu sur le statut légal des femmes et l'oppression que je constatais partout, ne cessait pas de hanter mon esprit. Je ne savais quoi faire, ni par où commencer. Ma seule idée fut de tenir une assemblée, afin de protester et de discuter de tous ces problèmes. Une annonce fut publiée dans le Seneca County Courier, convoquant une assemblée afin de discuter des droits de la femme les 19 et 20 juillet 1840. 300 femmes et quelques hommes s'y rendirent. Une déclaration de principe fut signée à la fin de la réunion par 68 femmes et 32 hommes. Elle reprenait les termes mêmes et la rhétorique de la Déclaration d'indépendance. Vient alors une liste de griefs. Absence de droit de vote, de droits concernant les salaires ou les biens, de droits en cas de divorce, pas d'égalité des chances devant l'emploi, exclusion des collèges et, pour finir, une déclaration accusant l'homme d'avoir fait en sorte de détruire par tous les moyens possibles la confiance de la femme en ses propres capacités, de minimiser le respect qu'elle pouvait se porter à elle-même et de faire qu'elle souhaite continuer de mener une vie abjecte et dépendante. Toute une série de conventions féministes eurent lieu en différents endroits du pays après celle de Seneca Falls. Au cours de l'une d'entre elles, en 1851, une vieille femme noire, née esclave à New York, écoutait attentivement quelques hommes blancs qui dominaient les débats. Il s'agissait de Sojourner Truth. Elle se leva pour exprimer à la fois l'indignation de sa race et celle de son sexe. « Cet homme là-bas dit que les femmes ont besoin qu'on les aide à monter dans leur attelage, qu'on leur évite de marcher dans les saletés. Moi, personne ne m'aide jamais à monter dans un attelage, ni n'essaie de m'éviter de marcher dans la boue, ni ne me donne la meilleure place. Pourtant, ne suis-je pas une femme ? Regardez mon bras, j'ai labouré, planté, engrangé, et aucun homme ne me surpasse à cela. » Pourtant, ne suis-je pas une femme ? Je peux travailler et manger autant qu'un homme, quand c'est possible, et porter le fouet aussi bien que lui. Pourtant, ne suis-je pas une femme ? J'ai eu 13 enfants, dont la plupart ont été vendus comme esclaves. Et lorsque je m'effondrais en larmes en pensant à eux, personne ne m'entendait. Pourtant, ne suis-je pas une femme ? C'est ainsi que les femmes, dans les années 1830-1850, commencèrent à résister à ceux qui voulaient les garder dans la sphère domestique. Elles participèrent à des mouvements de toutes sortes, pour les prisonniers, les malades mentaux, les esclaves noirs, etc., ainsi que pour leurs propres droits. Au beau milieu de ces mouvements explosèrent alors, sur l'impulsion du gouvernement et avec l'autorité de l'argent, une quête de terres supplémentaires et une volonté irrépressible d'expansion nationale. Les pères fondateurs étaient-ils ces hommes justes et sages, cherchant à garantir un juste équilibre ? En fait, ils se souciaient peu d'équilibre, à l'exception peut-être de celui qui permettrait de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire un équilibre entre les forces dominantes de l'époque. Ils ne souhaitaient certainement pas rééquilibrer les rapports entre maîtres et esclaves, entre possédants et démunis, entre indiens et blancs. La moitié de la population américaine, d'ailleurs, n'était même pas considérée par les pères fondateurs comme participant aux forces concurrentes de la société, selon Bailey. On n'en faisait mention nulle part dans la déclaration d'indépendance. Elle était également absente de la Constitution et demeurait parfaitement invisible dans la nouvelle démocratie politique. Ces absents par excellence, ce sont les femmes de la jeune Amérique.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.